Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Centre Café en direct depuis le CERCI, le musée mémorial des enfants du Veldiv, avec les mêmes invités que la semaine dernière, Hervé Debecker, professeur au lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers, Émile Brunier, étudiant actuellement en troisième année d'espagnol, mais en 2015 il était étudiant en première L au lycée Duhamel du Monceau, Maël Carbonnier et Pauline Martin, toutes les deux en première ES au lycée Duhamel du Monceau de Pithiviers, Christelle Lamoux, référente laïcité et citoyenneté à la protection judiciaire de la jeunesse l'APJJ, deux photographes, Christian Gattinoni et Nancy Jans, qui ont travaillé avec des jeunes sur les lieux de mémoire, et enfin Nathalie Grenon, directrice du CERCIL. Bonjour à vous tous. Alors, la semaine dernière, nous parlions du sens de l'histoire, comment justement le CERCIL, le musée mémorial des enfants du Veldiv, permettait de donner du sens à l'histoire. Et on avait déjà commencé à évoquer la question de la citoyenneté, de l'éducation à la citoyenneté, notamment avec Christelle Lamour, qui travaille avec des enfants. Donc, ce sont des éducateurs, éducatrices, par exemple, qui travaillent auprès de jeunes sur des questions de laïcité, d'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, vous pouvez nous expliquer comment évolue le regard des jeunes sur ces différentes questions. Si on prend par exemple le thème de la laïcité.
Les questions de citoyenneté plus généralement au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, elles ont toujours été travaillées avant même la création des postes de référent laïcité-citoyenneté à travers différents médias. La question de la laïcité, elle est revenue un peu dans l'actualité suite aux événements que nous avons connus ces dernières années. Et donc, il s'est agi de retravailler cette question-là, de reprendre un petit peu les textes, les bases, et de faire preuve de pédagogie sur ce qu'était la laïcité, puisque un certain nombre de mineurs pris en charge et leurs familles en avaient une vision un peu tronquée dans une acceptation d'une laïcité coercitive, empêchant la pratique de la religion. Donc, il s'agit effectivement de réexpliquer ce que c'est la laïcité à la française, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de pratiquer sa religion. Et donc, les services et établissements et les éducateurs se sont saisis de cette question-là pour travailler aussi, à travers la laïcité, on travaille aussi le vivre ensemble et comment on fait société, voilà, en étant différent, en ayant des pratiques religieuses différentes. Pour amener les jeunes à être citoyens d'une société dans un temps donné. Je donnerai juste comme exemple du travail qui peut être mené sur la question de la laïcité à la PJJ, le milieu ouvert, une unité de milieu ouvert de Montargis, qui a depuis un an et demi travaillé cette question-là autour de la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Enquête de laïcité. Il s'agissait de réfléchir et de se poser la question, c'est quoi la laïcité aujourd'hui en France ? Donc des jeunes qui ont pris en charge sont allés interviewer des représentants de l'État, des députés maires, conseillers régionaux, des enseignants, des représentants des cultes, musulmans, juifs, protestants, bouddhistes, et des gens un peu de lambda, pour savoir ce qu'était la laïcité pour eux. Et donc, ils en ont fait un documentaire voilà, d'une quinzaine de minutes qui va être projeté à Montargis le 27 novembre et qui est à destination des jeunes suivis par la PJJ, mais aussi des élèves de l'éducation nationale. Donc c'est un format de 13 minutes qui est un point de départ pour entamer un débat sur la question de la laïcité, sur ce qu'elle permet et sur cette question de la tolérance vis-à-vis des pratiques religieuses des autres, vis-à-vis des différences et en filigrane évidemment de la question de la discrimination dont on peut faire preuve envers certaines communautés ou dont on peut être victime.
Et en général, avec ces jeunes-là, quand vous entamez ce travail, vous partez de quoi ? De zéro ? Ils ont des bases, par exemple, sur ce sujet-là, la laïcité ou pas ?
Alors, sur la question de la laïcité, c'est pas le sujet le plus facile à aborder. Ils ont, en tout cas, des représentations, des idées, mais pas une définition très claire de ce que c'est. Ça reste un concept, donc il faut vraiment l'incarner dans, concrètement, la laïcité en France, comment elle se traduit. Au-delà du travail sur cette question de la laïcité, c'est aussi un travail éducatif d'éducation à la citoyenneté et de rendre ces jeunes citoyens. C'est-à-dire que quand on fait un documentaire, on va interviewer des gens, donc c'est la manière dont on s'adresse aux gens. Et aussi la question de l'information que l'on recueille. Quelle est sa validité, comment on fait un montage, qu'est-ce qu'on retient des informations qu'ils nous ont données. Donc c'est vraiment aussi tout un travail sur l'esprit critique qui a été mené pendant un an et demi. Et les jeunes qui ont participé à ce projet-là ont bien dit que ça leur avait permis de prendre confiance en eux, de restaurer un peu aussi l'estime en soi, et d'être plus à l'aise quand ils vont vers les autres pour s'adresser aux gens, de savoir qu'est-ce qu'on demande, comment on le demande, comment on se présente. Donc c'est plus largement, au-delà de la compréhension du concept de laïcité, c'est la confiance en soi et s'insérer dans une société.
Vous en avez parlé, l'esprit critique. Je vais me tourner vers les artistes photographes. Comment est-ce que justement vous exprimez votre subjectivité avec votre art, puisque c'est tout à fait possible avec la photographie, et en quoi justement l'esprit critique l'esprit critique intervient dans ce travail artistique?
Il intervient dans un temps très, très précis, qui est en fait celui qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire qu'on fait énormément de photos sur place et qu'ensuite, on a regardé ensemble des photos qu'on avait faites avant-hier avec Nancy, et on est très vite tombé d'accord sur quelques images tous les deux. Après, il peut y avoir des discussions, mais c'est vrai que c'est le temps de cet editing. Et puis ensuite, peut-être un troisième temps. De mise en forme, de finalisation, de post-production qui va amener au fait que cette photo elle va être accompagnée d'un texte, elle va être mise en diptyque ou en triptyque, ou au contraire on va choisir une forme sérielle pour travailler ces questions. Donc voilà.
We thought also about making more precise the intent of the photographs with a text, maybe to speak about a title or a line of words.
Donc il y a un travail d'écriture qui est fait en complément de la photographie.
More clear what maybe is the intention of the
les intentions
of the
du photographe.
A girl or boy who is working with us. And this is one possibility. Otherwise, we can speak about a focus or other techniques. I don't know if this was the question
de notre travail pour
you
expliquer nos techniques, yeah? Et les focus, les angles que l'on prend, les choix de photographie que l'on souhaite prendre, enfin qui ont été pris.
And then we can. Find a form.
Et alors on peut trouver la forme.
Maybe because I have experience with making little like exercise books, like little books, very small. But this is one theme I can speak about, and so this technique we could maybe use as well to have a special.
Donc, une expérience avec un livre d'exercices.
Oui. Il ne s'agit pas de faire confiance, de faire trop confiance à l'image seule. C'est-à-dire qu'il est important de construire. De construire soit une, comme je le disais, soit une série, soit des petits livres, soit une projection, pourquoi pas, qui va avoir du sens parce qu'on va y ajouter de la musique, du texte ou autre. Mais cette idée qu'aujourd'hui, il y a eu une époque effectivement où le reporter cherchait l'image juste qui allait résumer une situation, et c'est génial quand ça peut se produire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a peut-être, comme il y a beaucoup d'images, eh bien on essaye de travailler des séquences images qui vont avoir plus de portée qu'une image seule. Mais c'est vrai que c'est plus simple pour la communication d'une image seule. De même, c'est plus simple de faire « ne touche pas à mon poste » que de donner de l'esprit critique à des gens, parce que la citoyenneté, elle est mise à mal quand même dans des émissions comme celle-là, où le monsieur, que je ne citerai pas, qui la dirige, s'est permis de déchirer un livre qu'il n'aimait pas, s'est permis d'être absolument misogyne et pire. Donc,
disons-le, il a été condamné par le CSA pour des propos homophobes.
Tout à fait, des propos homophobes. Donc voilà, c'est vrai que cet esprit critique, il n'y a pas grand-chose qui le favorise. Notamment par rapport à la question de l'image et de l'art à la télévision, il y a très peu d'émissions qui apportent un esprit critique sur ces questions, trop peu en tout cas.
Monsieur De Baker.
Il y en a, mais en général, elles sont assez tard le soir. pas du tout à l'heure de « touche pas à mon poste ». C'est vrai que dans l'éducation à la citoyenneté, la question de l'éducation à l'image, c'est un des points centraux de l'enseignement. Et l'un des objectifs, c'est justement, par rapport aux images, de prendre un peu de recul et de s'arrêter sur les images pour que déjà, devant une image, les élèves se posent la question « qu'est-ce que je vois ?» Et pourquoi je vois ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a voulu montrer et pourquoi faire ? Parce que l'image, comme tout document, n'a pas d'objectivité en tant que telle. Il y a une subjectivité qui est celle de celui qui a pris l'image, en fonction d'un contexte, en fonction d'une finalité, d'une commande ou d'autre. Et c'est vrai que c'est important que les élèves s'arrêtent justement à ces questions d'image, de qui produit ces images. Alors, il y a 10 jours, j'étais en Israël, à Yad Vashem, pour une formation justement autour de la question de la Shoah, et on a eu un atelier sur la question des ghettos. Et l'historien de Yad Vashem nous a remarqué que la difficulté, comme sur la question des ghettos en Pologne et sur bien d'autres sujets, c'est que les premières images et les premiers documents qu'on retrouve d'ailleurs dans les manuels d'histoire, ce sont des images qui ont été prises par les bourreaux. Et déjà la première chose que nous on a à faire, c'est de ramener quand même cette histoire aux victimes en tant que personnes, parce que évidemment... le bourreau, les nazis avaient une finalité quand ils prenaient ces images, et que malheureusement, c'est le principal support visuel qui nous reste encore aujourd'hui.
J'ai animé un atelier au Rendez-vous de l'Histoire sur ce sujet, parce qu'effectivement, utiliser le vocabulaire du bourreau, par exemple, quand on parle d'extermination, c'est un vocabulaire utilisé par le bourreau. On n'a pas exterminé des hommes, des femmes et des enfants, on les a assassinés. Ça revient à ce que l'on a dit dans l'émission la semaine dernière, c'est-à-dire incarner l'histoire dans des récits de vie, restituer l'humanité de chacune des victimes. Et c'est exactement la même chose pour les photographies. Et en particulier, sur cette photographie que nous connaissons tous, de ce petit garçon, les mains en l'air, que l'on situe plus ou moins dans le ghetto de Varsovie, je dis plus ou moins parce qu'elle est sur les sites internet, elle n'est pas située toujours au même endroit. Il se trouve qu'on est dans une photographie de propagande qu'effectivement, l'analyse du point de vue de qui l'a prise, etc., clairement, c'est effectivement un travail de commande dans le cadre de ce que les Allemands appellent la liquidation du ghetto. Donc évidemment, ça change le regard que l'on porte sur ce petit garçon.
Alors,
je voulais juste dire deux mots sur la question de la laïcité. Ce ne sont pas que les jeunes qui voient pas forcément ce qu'est la laïcité. Il ne faut pas se tromper. Là, aujourd'hui, le sujet de votre émission, ce sont la jeunesse. Mais s'il n'y avait que les jeunes qui n'étaient pas au clair avec la laïcité, le monde irait bien. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment de quoi il parle lorsqu'il parle de la laïcité. De ce fait, c'est un peu à géométrie variable et on peut manipuler le concept. Donc effectivement, la PJJ fait un travail remarquable sur ces questions, mais c'est un travail qu'on devrait faire à l'échelle de la France. La France a cette chance incroyable, évidemment, d'être un pays laïque. Il n'y a pas d'autre pays. Hein. Et effectivement, rappeler ça, c'est une richesse, c'est une chance. Beaucoup d'immigrés dans l'histoire du XXe siècle choisissent la France aussi parce que c'est un pays laïque. Je pense à ces nombreux juifs polonais qui échappent aux pogroms, qui échappent à l'antisémitisme, etc. et qui choisissent la France parce que justement, c'est évidemment la liberté, l'égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Mais aussi laïcité. Donc c'est une grande richesse pour notre pays. Alors, vous parliez d'actualité, on sait qu'aujourd'hui le gouvernement réfléchit à une redéfinition de la loi, mais a-t-elle besoin d'être définie? Il y a tout dans cette loi. Il y a juste à être au clair, effectivement, sur la façon dont on doit, mais même pas l'interpréter, l'appliquer.
Alors, on a trois jeunes autour de la table. Il y en a deux qui sont des citoyennes en devenir, qui sont déjà citoyennes françaises, j'ai envie de dire, mais vous ne pouvez pas encore exprimer votre vote parce que vous n'avez pas encore l'âge légal pour cela. Est-ce que vous vous sentez citoyenne, déjà? C'est quoi pour vous la citoyenneté? Oui, on va commencer par le début, hein, parce qu'après j'ai des questions encore plus compliquées. La citoyenneté, quand on vous parle de citoyenneté, je ne sais pas, Maëlle, Pauline... C'est quoi pour vous la citoyenneté?
Déjà, c'est se sentir appartenir au pays dans lequel on est. Enfin, moi, je suis française. Enfin, je le dis. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le dire. Enfin, on est français tous ici. On est français. On est citoyens. On est des habitants de la France. On est français. Et enfin, voilà. C'est déjà ça. Après, c'est aussi avoir des droits, des devoirs aussi, envers la France, donc envers sa patrie. Voilà.
Oui, je vais rebondir sur ce que vous disiez la semaine dernière, dans l'émission précédente, où vous disiez que, justement, le CERCIL vous permettait, vous, de comprendre votre histoire. Et vous dites que aujourd'hui, être là, c'est une première définition de la citoyenneté, c'est se sentir appartenir à son pays, à la France en l'occurrence. Je l'ai dit tout à l'heure aussi en introduction, vous êtes une citoyenne en devenir. Est-ce que justement devenir citoyen, c'est déjà commencer par s'intéresser à son histoire, par ce travail justement?
Oui, il faut connaître l'histoire de la France. Tu veux parler?
Pauline, quelque chose de la citoyenneté pour vous?
Je dirais c'est un mot un peu vague. Citoyenneté, ça fait...
Au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à mettre du contenu derrière ce mot, c'est cela?
Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un peu un grand mot, mais qui n'a pas un sens très précis, quoi.
Et pour quelle raison? Est-ce que tu penses que ça devrait être peut-être plus expliqué à l'école ou par tes parents, je ne sais pas, par le milieu extérieur?
Ouais, peut-être plus dans le concret que dans la définition qu'on peut lire dans notre manuel d'histoire et géographie, quoi.
On revient à effectivement rendre, à incarner effectivement non seulement l'histoire, mais également les définitions qui font la République française, qui font la citoyenneté. En fait, les jeunes qui sont autour de la table, il faut le rappeler, ce sont des ambassadeurs du CERCIL, Musée Mémorial des Enfants du Vel'Dib, c'est-à-dire que ce sont des jeunes que l'on choisit, dans le lycée du Hamel du Manceau à Pithiviers, et qui pendant 2 ans vont représenter le CERCIL Musée Mémorial, l'histoire des camps de Pithiviers de Bonne-la-Rolande, l'histoire, ainsi que, évidemment, l'histoire des internés. Et pendant 2 ans, ils vont s'investir à la fois dans une approche des contenus, dans la rencontre avec l'autre, et puis surtout, ils vont participer à des commémorations, mais en étant acteurs. Parce qu'être citoyen, c'est ça, hein, c'est être acteur. C'est être acteur de sa vie, c'est être acteur de la recherche d'informations, c'est être acteur en votant connaissance de cause. C'est ça, la citoyenneté. Et déjà, bah, ils sont acteurs, ce sont nos ambassadeurs, ils ont choisi de l'aide, c'est de l'investissement. Donc là, Maëlle et Pauline, ce sont nos nouvelles ambassadrices, et Émile a le recul, puisqu'en fait, il était ambassadeur en 2015. Et donc, ambassadeur un jour du CERCIL, ambassadeur toujours, Émile.
Je vais être honnête avec vous, je suis pareil que les filles. Le mot citoyen, citoyenneté, c'est oui, un grand mot. Mais pareil, on a des droits, des devoirs, mais...
Tout à l'heure, vous disiez que vous dites avec fierté, je suis française, je fais partie d'une communauté, mais j'ai des amis qui n'arrivent pas à dire je suis française.
Je pense que la double nationalité, déjà, ça aide pas.
Ah, c'est ça, c'est d'accord.
Par exemple, double nationalité portugaise-française. Ils vont avoir plus de mal à dire « je suis français » que moi qui suis française du côté de ma mère et du côté de mon père. Déjà ça ça complique les choses. Et je pense que je ne connais pas beaucoup de personnes effectivement qui arrivent à vraiment dire « je suis français, je me sens française ». Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais...
Donc, oui... Alors moi, pareil, dans ma classe, il y avait, j'avais un ami qui, lui, vient directement d'Espagne. Bon, ça fait un bout de temps qu'il est en France maintenant, mais il n'avait toujours pas sa carte d'identité française. Et donc, il disait qu'il était espagnol, donc forcément. Et quand il l'a eu, il avait toujours du mal à dire qu'il était français, parce que bon, ça ne change rien, il est quand même espagnol.
Christelle Lamour.
Par rapport à la question de la citoyenneté, effectivement, ça reste un concept aussi qui peut être un peu flou, on l'entend. Et je pense que l'éducation à la citoyenneté, c'est de permettre à des jeunes, en tout cas à la PJJ, mais aussi à des plus âgés parfois, de comprendre le monde dans lequel... la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire que ça passe aussi par de l'éducation à comprendre le fonctionnement des institutions, alors de la justice pour ce qui est de la protection judiciaire de la jeunesse, parce qu'ils sont directement confrontés à l'appareil judiciaire, mais à comprendre le fonctionnement d'une commune, des différentes institutions. Et je pense que parfois... En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les jeunes, quand on leur parle d'éducation à la citoyenneté, c'est pas quelque chose qui... Voilà, ils ont l'impression que ça va être un peu chiant, si je peux me permettre. Enfin, je reprends leur terme, évidemment. Mais en tout cas, ils font preuve dans certaines actions d'actes citoyens. Je reprends un exemple de l'UAJ, qui a un restaurant d'application. Et qui, lors des inondations de 2016 dans le Loiret, les jeunes se sont dit « mais il faut faire quelque chose pour les gens qui ont tout perdu dans les inondations ». Et ils ont décidé de faire une paella solidaire, donc une paella géante qui a été vendue au profit des sinistrés. Et donc, c'est-à-dire que là, on est dans un acte citoyen, mais qu'on ne nomme pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'empathie, de la sympathie et de la solidarité. Et je pense que la citoyenneté, au-delà de l'identité et de la nationalité, c'est faire preuve d'empathie et de solidarité à l'égard de ce qui peut nous entourer. Aussi.
C'est très juste, parce que ce que vous dites là, c'est-à-dire la connaissance des institutions, l'éducation nationale le fait très bien et très vite, dès le primaire. Donc on voit bien que dans ce que nous disent nos jeunes, c'est pas parce que je connais comment fonctionnent grosso modo les institutions que ça fait de moi un citoyen. Et c'est très juste ce que vous dites, Christelle, c'est-à-dire que vous dites un acte de citoyenneté. Donc là, on est dans quelque chose, il faut être dans l'opérationnalité. Concrètement, qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis un citoyen ? Voilà. Et là, vos jeunes n'ont pas eu besoin, effectivement, de se rappeler la séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs. Ils se sont vus en tant que des citoyens actifs, en tant que des humains actifs. De fait, ils étaient citoyens, mais ils n'ont pas mis le mot. Mais ils étaient des acteurs de leur vie. Et Émile, pourtant, Daniel, vous avez essayé de lui faire dire, mais hors micro, il nous disait tout à l'heure que le fait d'être ambassadeur, justement, a changé votre regard sur le monde.
Monsieur De Baker.
Oui, sur l'éducation, la citoyenneté, sur la question de l'éducation aux institutions. Bon, je serais peut-être pas aussi optimiste sur la connaissance, parce que sincèrement, même moi, en tant que citoyen qui m'intéresse à ces questions, les institutions françaises, qu'on prenne depuis le local jusqu'au national, puis la dimension européenne, sont extrêmement compliquées. Aller enseigner à des élèves de première les questions d'intercommunalité et qui fait quoi, etc. Je défie un citoyen lambda de savoir qui fait quoi, et nous, on doit l'enseigner. C'est extrêmement compliqué. On a des réformes très régulières, la dernière avec ses grandes intercommunalités. Et la difficulté aussi, c'est que moi-même, en tant que citoyen, quand on vote, par exemple, pour les élections municipales, on se pose quand même la question de savoir qu'est-ce que le maire va pouvoir faire, quels sont ses pouvoirs et quel va être le... Finalement, quel sens ça a de voter dans un millefeuille administratif avec un nombre de niveaux de décision qui est extrêmement élevé? Et c'est un véritable défi. Et en plus, rendre ça pas trop chiant, c'est un grand défi. Rendre ça concret, c'est extrêmement compliqué.
Il y a des cours d'éducation morale et civique au lycée qui sont censés en partie donner un cadre à cette notion de citoyenneté. Et tout ce que ça implique.
Alors, ça passe aussi, notamment, je pense, en première, par la géographie, sur la question des acteurs qui agissent sur les territoires. La difficulté qu'on a actuellement, c'est de donner du sens et de faire comprendre aux élèves que, d'abord, beaucoup de ces acteurs sont liés, justement, sont des acteurs qui sont issus de l'élection, directement ou indirectement, donc le citoyen a un pouvoir. Mais c'est vrai que quand on... Le meilleur moyen de donner du sens, c'est effectivement de passer par le concret, par des réalisations concrètes, qui a fait quoi, mais c'est extrêmement compliqué.
Par rapport à effectivement la question des institutions, c'est vrai qu'à la PJJ, les mineurs sont en première ligne avec la justice. Et du coup, il y a la nécessité effectivement qu'ils en comprennent le fonctionnement. Mais ce qu'on peut parfois observer aussi, c'est... la justice, c'est quelque chose qui revient souvent sur le devant de la scène médiatique ou politique. Et que finalement, ça permet de toucher du doigt avec les jeunes le fait que la politique, elle peut avoir un vrai impact sur la vie de chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir de lois qui ont pu passer et les jeunes, en regardant à la télé des discours sur notamment la délinquance des mineurs et des choses comme ça, ont pu prendre conscience que les décisions des politiques pouvaient avoir un impact sur leur propre vie par rapport à des condamnations ou des prises en charge. Donc ça, c'est vrai qu'en tout cas... sur la question de la justice à la PJJ, c'est quelque chose qui est assez travaillé parce que ça impacte directement. Après, je rejoins monsieur Demaker, pardon. sur voilà, les institutions et leur fonctionnement qui sont très compliqués. Et je pense que la citoyenneté, finalement, c'est aussi un sentiment, quelque chose d'un peu impalpable, finalement, et que... ça se traduit par des actes et par le fait de se sentir appartenir à une communauté, à une société, à un moment donné. Je pense que vraiment, c'est ça qui... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on essaye de transmettre au sein voilà, des éducateurs et au sein de la PJJ, c'est que on peut être issu de l'immigration, on peut être de nationalité étrangère, mais au moment T, on est en France... Et on a des droits et des devoirs. Et c'est ça qui fait aussi le vivre ensemble et qui fait société. Dans le partage aussi de valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître.
Je vais m'adresser maintenant aux ambassadeurs, donc Émile, Pauline et Maëlle. Être ambassadeur, en quoi ça consiste en fait? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Déjà, on a été ambassadrice parce que c'est notre professeur d'histoire-géographie qui nous a choisi l'année dernière en seconde. Parce que ça avait été notre classe qui avait été choisie. Et on a beaucoup fait de commémorations. On a été déjà en Allemagne, les trois ambassadrices, nous trois. On a été en Allemagne, on a fait beaucoup de commémorations en Allemagne. On a aussi vu une chambre à gaz, donc c'est un peu notre programme d'histoire et on en voyait en réalité, donc c'était intéressant ça. Et après, bah, on a fait beaucoup de... On a fait une exposition, photo, avec des textes, tout ça, qu'on a présenté dans notre lycée. Donc, voilà.
Bah, ça rejoint un peu aussi le côté du rapport à l'image, etc. On a vu une expo photo en Allemagne. Je ne me rappelle plus du nom du photographe. et c'était des photos de déportés, enfin d'ex-déportés du coup, avec un petit résumé de leur histoire, de leur vie. Et c'était intéressant de mettre un visage sur ces gens qu'on nous parle tout le temps en fait, des déportés, de la Shoah, d'Auschwitz. Et on pouvait vraiment mettre un visage sur les histoires qu'on nous raconte en cours.
Mais avant ce voyage, avant d'avoir visité une chambre à gaz, avant d'avoir vu cette exposition, vous aviez quoi comme vision de cette période-là de la Shoah ? Vous en parliez à la maison avec vos parents, des oncles, des tantes, non ?
Bah, j'ai une famille où on parle un peu de tout. Enfin, on débat entre nous, on parle beaucoup. Donc ça, oui, ça a pu arriver, mais c'est vrai que depuis que je suis ambassadrice, on en parle plus. Parce que j'ai plus de choses à raconter, parce que j'ai plus de culture. Et du coup, on en parle plus entre nous. Dans des réunions de famille ou même avec des amis, on en parle.
C'est important d'en parler ?
Très important.
Oui ? Vous pouvez en parler avec tout le monde ?
Oui.
Oui, d'accord. Il y en a avec qui vous avez du mal à en parler ? Des personnes, je veux dire.
Y a des personnes qui ne sont pas très intéressées par le sujet, donc forcément, parler à une personne qui n'est pas intéressée par ça, c'est plus compliqué. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait des personnes, enfin, qu'il y ait un type de personne avec qui on ne peut pas parler. De ça. Enfin, c'est un sujet que normalement tout le monde connaît. On le fait en cours, de la primaire jusqu'au lycée. C'est des choses qu'on peut voir aux informations. Il y a des livres, il y a des reportages. C'est un sujet accessible pour tout le monde.
Alors, tout à l'heure, vous disiez, vous aviez commencé, être citoyenne, c'est appartenir à une communauté. Il y a Christelle Lamour qui disait aussi que la citoyenneté, ça se traduisait par des actes. Là, vous nous parlez du travail, par exemple, que vous avez fait, vous êtes allé visiter des chambres à gaz. Vous pouvez témoigner. Est-ce que vous diriez que c'est un acte citoyen que d'être ambassadrice et de témoigner à votre tour de l'existence de ces chambres à gaz, de pouvoir les décrire, ou même, comme vous expliquiez la semaine dernière, le travail que vous faites avec des élèves de primaire? Est-ce que vous mettriez ça dans le grand paquet citoyenneté ?
Oui, je suppose. Oui. De transmettre le savoir.
D'accord.
C'est déjà être citoyen, je pense.
Émile ?
Il faut que je raconte tout depuis le début.
Allez-y, allez-y, depuis le début. Comment êtes-vous devenu ambassadeur ?
Alors, du coup, nous, au départ, c'était pas trop pareil qu'eux. Nous, on a été élus par la classe. Et c'est pas M. De Becker qui nous a choisis.
Et pourquoi vous avez été élu, vous ? Vous avez fait campagne ? Enfin, expliquez-moi.
Oui, alors on devait se mettre par groupe de trois. Et on était trois groupes de trois et tout le monde a voté. Voilà. Donc après, je ne sais pas pourquoi on était élus. Ils ont voté pour nous, c'est tout.
Et vous, avant d'être ambassadeur, vous aviez quoi comme vision de la Shoah ?
Ce qu'il y avait dans les livres d'histoire.
Et vous en parliez aussi en famille avant de... Vous avez fait ce voyage en Allemagne également ?
Non. Non, non, non. On n'a pas eu de... Pas eu de voyage. Ce qu'on a fait, c'est que on a juste été au camp de Pithiviers et puis à Beaune-la-Rolande aussi, parce que maintenant Beaune-la-Rolande, c'est un lycée agricole qui est dessus. On a été au cimetière de Beaune-la-Rolande, il me semble, voir plusieurs tombes, en particulier celle de Cabanis. Voilà, c'est ça.
D'accord.
Et après, on a fait notre week-end à Paris.
Oui,
ce que j'allais dire aussi. Le rôle d'ambassadeur, il ne s'arrête pas là. Donc oui, il ne s'arrête pas là. Et un an après, M. De Becker, il m'a rappelé, enfin, m'a renvoyé un mail pour une commémoration à Pithiviers. Et puis, un mail l'année dernière, en... fin d'année 2017, pour mars 2018, le 18 et le 17, le 17 et le 18, pour Rivesaltes.
Alors, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, en écoutant les jeunes, que c'est un peu compliqué de définir la citoyenneté, c'est beaucoup de choses. Par contre, ils sont prêts à en faire, et sans même le savoir, en fait. Bon, on a un peu rigolé avec l'exemple, pas rigolé, mais avec l'exemple de la paella, ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie, voilà. Et puis, là, puisqu'on est au CERCIL et qu'on s'attache notamment à ce travail de, d'éducation à la citoyenneté aussi, qui peut être fait par le CERCIL, Monsieur De Becker, vous vouliez réagir.
Oui, sinon c'était pour compléter ce que disait Émile. À Rivesaltes, il s'agissait en fait de... C'était un peu un retour sur expérience, une rencontre des anciens ambassadeurs pour savoir comment ça se poursuivait. Ils ont pu échanger sur, finalement, eux, ce qu'ils attendaient aussi, justement, dans ce contexte mémoriel, avec la disparition progressive des témoins, comment ils se voyaient. Et puis, en plus, ça a été pour eux l'occasion de découvrir un autre lieu de mémoire. Alors, évidemment... beaucoup moins connu par nous, habitants de la moitié nord de la France, mais qui est absolument étonnant, notamment parce que le camp d'internement de Rivesaltes, il reste l'ensemble des baraques. Voilà. Donc il y avait déjà la matérialité d'un camp qui était encore là, et une autre histoire liée, par exemple, aux républicains espagnols qui étaient venus se réfugier, qui avaient été internés dans ce camp.
Nathalie Grenon.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Émile a fait partie du groupe qui a rédigé une réponse de la jeunesse française à Simone Veil. En fait, vous savez que le 27 janvier est une date qui, d'abord, a été retenue par la France pour commémorer les victimes des génocides. Pourquoi le 27 janvier ? Parce que c'est la date où l'armée rouge va arriver à Auschwitz. Hein. Donc, dans un premier temps, c'est la France qui avait retenu cette date, puis l'Europe. Et maintenant, c'est une date donc commémorée au niveau des Nations Unies. Et donc, depuis 2005, le CERCIL, dans un premier temps, un petit peu tout seul en France d'ailleurs, avait, mais parce qu'il y a Pithiviers et Bonne-la-Rolande, bien sûr, avait fait travailler un certain nombre d'établissements scolaires autour de cette notion du 27 janvier. C'était à la fois un aboutissement de projets pédagogiques, mais en même temps le début aussi d'autres actions. Et puis, le mémorial de la Shoah avait sollicité Simone Veil pour un texte, donc elle avait rédigé un texte exceptionnel, où justement elle parlait également de la disparition progressive des témoins, et c'était une invitation à la jeunesse de devenir eux-mêmes donc des témoins de cette histoire. Et depuis plusieurs années, donc le 27 janvier à midi, dans les 12 lieux de mémoire liés à la Shoah en France, des jeunes lisaient, lisent toujours d'ailleurs, ce texte exceptionnel de Simone Veil. Et lorsqu'il s'est agi effectivement de réfléchir au niveau de nos 12 lieux de mémoire liés à la Shoah en France à un acte fort en réponse à Simone Veil, eh bien on a sollicité nos ambassadeurs, donc Émile en faisait partie, et donc il y a eu tout un travail collaboratif pendant plusieurs mois, donc avec des élèves de toute la France, pour rédiger donc un texte en réponse à Simone Veil. Le texte donc a été présenté à l'UNESCO le 27 janvier 2016. 2015, et il est depuis, alors il a été publié dans Le Monde, et depuis il est lu chaque année, donc le 27 janvier à midi, dans la cour du CERCIL, devant à l'entrée de l'ancien camp de Pithiviers et de celui de Bonne-la-Rolande, sont lus à la fois le texte de Simone Veil et la réponse donc de la jeunesse française. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que nous au CERCIL, on le fait aussi en allemand. Puisque, vous le savez, nous avons un axe de coopération très important avec le Land de Saxe-Anhalt, hein, sous l'égide à la fois de la région Centre-Val-de-Loire et du Land de Saxe-Anhalt. Et donc ce travail dont on vient de parler aujourd'hui concerne tout autant les élèves français que les élèves allemands.
On a parlé des actes, appartenir à une communauté. Vous avez dit aussi tout à l'heure, Maëlle, apprendre, se cultiver. C'est nécessaire, parce que vous parliez de transmettre un savoir. Avant de transmettre, il faut l'acquérir. Vous disiez aussi, vous, Émile, que la Shoah, vous n'en saviez pas plus que ce que vous en disiez des livres d'histoire. Qu'est-ce que le CERCIL vous a appris en plus que les livres d'histoire, vous ?
Oui, un terreau surprise, c'est ça, j'ai entendu.
Oh, ouais, arrêtez. Qu'est-ce que vous avez appris de plus que vos livres d'histoire avec le CERCIL, en allant visiter ces anciens camps d'internement, par exemple?
Plus, déjà, comme on le disait tout...
Oui.
Ça marche, là,
ouais. Oui, oui.
Comme on le disait tout à l'heure, y avait l'émotion aussi.
De la colère aussi un peu, ou pas? Jamais? Maëlle?
Non, pas de colère. C'est, enfin, ça sert à rien la colère. C'est nul la colère. Enfin, on sait, mais ça sert à rien d'être en colère pour ce qui s'est passé. C'est... Je sais pas, ça, la colère, ça sert à rien.
Ouais, je suis d'accord, assez d'accord avec elle. Plutôt, pour ma part, je dirais la tristesse. Ouais, des frissons aussi, comme je disais tout à l'heure. Et puis voilà.
Alors, je suis d'accord avec vous, ça sert à rien la colère. Mais on peut la ressentir, la révolte. Enfin, moi, je me remets à votre âge. Et même aujourd'hui encore, j'avoue que je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que c'est l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité qui tue l'humanité. Et là, je comprends pas, en fait. Ça me révolte. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Vous avez des sentiments de cet ordre-là?
Oui, de la révolte. Mais c'est pas la même chose que la colère.
Bien sûr, oui.
De la révolte parce que on se rend justement grâce au CERCIL, on se rend plus compte de l'horreur en fait. Dans les manuels, dans les livres, on nous dit que c'était horrible, mais on le ressent pas. Quand on était dans la chambre à gaz, quand ils ont fermé la porte et qu'on était là, enfin tous dedans et qu'on s'est dit mais c'est horrible. Enfin c'est vraiment, c'est une sensation étouffante, mais en fait on a l'impression qu'on nous étrangle. C'est étouffant, c'est on est mal à l'aise. Et plus on passe de salle en salle, ça s'empire jusqu'au four crématoire, ça. Et ça, ce sentiment de malaise, d'horreur en fait, de ressentir l'horreur des choses, ça s'accentue. Et vraiment, en plus, il y avait des photos tout autour des fours crématoires. Et on voit ces gens, on se dit qu'ils étaient là il y a quelques années, en fait, c'est pas si loin. Et qu'ils étaient là et qu'ils sont morts ici. Et que nous, enfin, on suit leurs pas. C'est une horreur, enfin, qu'on se rend pas compte dans les manuels.
Juste, il faut peut-être préciser, parce que les auditeurs vont pas bien comprendre comment vous avez pu voir une chambre à gaz, puisque dans le cadre de ce que les Allemands appellent la solution finale, évidemment, toutes les chambres à gaz ont été dynamitées, puisque l'idée est de n'avoir aucune trace. Donc là, on peut ne pas comprendre comment vous avez pu visiter. En fait, il se trouve que dans le Land de Saxe-Anhalt, il y a une ville qui s'appelle Bernburg. Dans cette ville de Bernburg, il y a un hôpital psychiatrique. Que dans cet hôpital psychiatrique a été mis en œuvre un programme qui s'appelle le programme T4 et qui a consisté à euthanasier donc des personnes handicapées, considérées handicapées par les nazis. Et dans ce cadre-là, effectivement, a été créée une petite chambre à gaz qui permettait d'assassiner une dizaine de personnes. Et effectivement, on voit déjà, elle est camouflée en douche. Vous voyez bien pourquoi, hein, pour faciliter l'entrée dans la chambre à gaz de ces personnes que l'on allait assassiner. Évidemment, on ne leur a pas dit, vous rentrez là, on va vous assassiner, mais vous allez prendre une douche. Et puis, effectivement, on voit bien tout le processus de cette chambre à gaz à la destruction des corps, donc dans les fours crématoires. Sauf qu'on est bien avant la mise en œuvre de la Shoah. Ce qu'il faut savoir, c'est pour cela aussi que, de façon expérimentale, nous emmenons les élèves sur cet endroit, c'est qu'en fait, au moment où on va mettre en œuvre, où les nazis vont mettre en œuvre l'opération Reinhardt, où là, effectivement, on a des centres de mise à mort et où la chambre à gaz, évidemment, il ne faut pas qu'elle contienne que 10 personnes, hein, mais des milliers de personnes, eh bien, on va faire venir les ingénieurs qui ont créé cette mini chambre à gaz et on va leur demander de concevoir donc, des chambres à gaz qui permettent de tuer en une seule fois des centaines de personnes. Donc, au-delà de l'émotion, on voit bien que tout le travail qui est fait, c'est vraiment une question d'appréhension, de connaissance des mécanismes. Donc, appréhender l'histoire, c'est l'incarner, et on le dit bien depuis la semaine dernière, mais c'est l'incarner pour mieux comprendre les différents rouages qui, à un moment donné, vont effectivement faire concrètement permettre d'assassiner des millions de personnes. Ce sont des décisions idéologiques, hein, ce n'est pas des accidents de l'histoire, c'est une construction idéologique et politique. Mmh.
Et donc, comprendre ces mécanismes, comme vous dites, c'est comment dire, se protéger pour éviter que ça se reproduise, voir, là, ça ressemblerait bien à de la propagande, ce qui se passe ici, parce que on a étudié ce que c'était la propagande, il y a eu un travail d'éducation à l'image, et on est un peu plus aguerri maintenant, un peu plus armé en tant que citoyen, pour comprendre ce que c'est qu'une propagande, et un mécanisme aussi, j'allais dire, d'exclusion d'une partie de la population. Vous revenez du Rwanda. On a beaucoup parlé du génocide. Malheureusement, c'est ce que je disais. Donc, on peut être, quand on est jeune, puis même aujourd'hui encore, horrifié par le génocide de la Seconde Guerre mondiale, et puis souhaiter que ça ne se reproduise pas. Et puis, donc, on essaye de comprendre les mécanismes, on s'informe, on se cultive, et pourtant, ça se reproduit. Vous pouvez nous expliquer votre voyage, sur quelle trace
J'ai encore beaucoup de difficultés à en parler, parce que c'est très violent sur place.
Oui, j'imagine.
Mais en tout cas, ce qui est important, et c'est ce qu'on essaie de travailler avec les jeunes et les moins jeunes, c'est qu'effectivement, il n'y a pas qu'un génocide dans l'histoire. Cela veut dire qu'il y en a eu, il y a le génocide des Arméniens, on l'a abordé la semaine dernière rapidement, le génocide des Juifs et les génocides des Tziganes, qui heureusement, on l'a dit la semaine dernière, n'a pas impacté la France. Et puis, il y aura 25 ans l'année prochaine, le génocide des Tutsis du Rwanda. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut recommencer. Ça peut recommencer. Les mécanismes en sont identiques pour partie. La semaine dernière, Hervé De Becker parlait du processus de déshumanisation de l'autre, de celui qu'on va considérer comme différent. Eh bien, ce processus, on va le retrouver effectivement dans les différents génocides. Juste parler du Rwanda très, très rapidement, 25 ans, c'est hier. Nous étions nés, pas vous les jeunes, mais nous étions là. Avec Hélène Moucharzet, quelques semaines avant le génocide, nous avions organisé une conférence à Orléans où déjà, alors on n'avait pas parlé de génocide, mais on avait parlé de massacre dans la région des Grands Lacs, dans l'indifférence absolue. Les journalistes ne sont pas venus, la population est très peu venue et le déclenchement du génocide a eu lieu quelques jours après. Donc vous voyez bien que savoir dire, etc., peut ne pas être totalement utile. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas été... Donc, il y a la question aussi de l'impuissance, de notre impuissance à nous, citoyens, quand on est face à quelque chose que l'on voit, que l'on pressent qui va se dérouler, et on en fait quoi ? Donc, vous voyez combien c'est compliqué. On est dans l'éducation, comment on repère dans le moment présent. On peut parler de la Birmanie aujourd'hui. Mais on en fait quoi ? Voilà. Et là, on revient à citoyen acteur.
Monsieur De Becker, la citoyenneté active, on a parlé de citoyenneté active, en fait. Vous, en tant que professeur, donc professeur d'histoire, géographie, mais aussi donc éducation morale et civique, est-ce que là, il y a une approche pédagogique et éducative un peu différente ? On est dans une sorte de... On parle de pédagogie active, il me semble.
C'est déjà essayer de rendre concret la citoyenneté, effectivement, par les actes. Quand je mets un bulletin de vote dans l'urne, ça signifie quoi ? C'est déjà ça qui est extrêmement compliqué. C'est-à-dire comment mon bulletin de vote peut servir. Voilà. Il y a des fois des faits d'actualité qui font réagir. Les attentats de Paris ont fait réagir les élèves. J'ai souvenir d'une élève qui savait pas trop quoi faire. Elle était en terminale et elle m'a dit, il faut que je fasse du journalisme. Il faut que je rapporte ça. Et elle a réussi à rentrer à Sciences Po Lille pour justement travailler dans le journalisme. Et c'est vraiment le déclencheur a été les attentats de Paris. Donc on a aussi ces comportements chez les élèves. Ils sont extrêmement réactifs. Il faut avoir confiance en la jeunesse. Parce que je pense que ce qui est dramatique et que je ressens tous les jours, c'est le regard que porte le monde adulte sur les jeunes. Parce que faut rappeler une chose, c'est que ce regard de la société sur les jeunes, il a souvent été négatif. Sauf que quand il y a un problème, quand il y a une guerre, c'est les jeunes qu'on envoie. Et puis justement, quand on a ce type d'événement, on a entendu parler, c'est vrai, au moment des attentats, de la réaction de certains élèves. De la réaction de certains adultes, l'immense majorité des élèves n'ont pas du tout eu ces réactions négatives et ont été fortement touchés et avec cette envie d'agir. Donc il faut avoir confiance en cette jeunesse.
Pardon.
Et c'était pas qu'une question de nationalité.
Non.
Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Faire partir d'une communauté, c'est-à-dire de la France, c'est pas forcément une question de nationalité. On a des Espagnols qui se sentent plus français que certains Français. Donc là, on est bien dans des valeurs qui nous réunissent.
Maëlle, je sais que vous êtes quand même assez à l'aise pour parler, Maëlle Carbonnier, par rapport à ce que vient de dire Monsieur De Becker, votre professeur, sur la jeunesse, le regard porté par les adultes sur la jeunesse. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui. On m'a souvent dit... c'est bizarre, je pensais pas que les jeunes...
Qui ça, on ?
Bah, ça peut être des personnes de ma famille, ou alors des amis de mes parents, ou des personnes comme ça, des personnes plus âgées, du coup, que moi, qui me disaient, c'est bizarre, je pensais pas que les jeunes pouvaient s'intéresser à ça, des choses comme ça, alors que, enfin, on peut s'intéresser à ce qu'on veut. Enfin, on n'est pas limité parce que la majorité des gens ou parce que les gens de nos âges ne sont pas forcément intéressés tous par ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y être intéressé aussi. Et je pense qu'il y a un peu des préjugés aussi sur la jeunesse. On parle souvent des préjugés sur d'autres choses, mais sur la jeunesse aussi. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est moins... Comment dire ? Qu'on est moins intéressé.
Vous êtes plus intelligent que ce qu'on pourrait penser, que ce que les adultes pourraient penser de vous. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas soif de savoir, que vous n'êtes pas curieux,
voilà,
que vous ne voulez pas vous cultiver. Oui,
oui, c'est ça.
Je voulais rebondir sur justement toutes ces questions-là, et notamment la question du travail de mémoire, puisque c'est une des grandes inquiétudes chez certains. La jeunesse n'aurait pas de mémoire. Et on me dit toujours, là on arrive au mois de novembre, commémoration du centenaire de la Grande Guerre, et on me dit, mais les jeunes viennent pas aux commémorations. Mais les vieux non plus. Voilà, donc quand je vais aux commémorations à Pithiviers, je peux pas dire que ça soit la foule des grands jours. J'espère qu'il y aura plus de monde cette année.
Oui, je voulais rebondir par rapport à cette question de la vision qu'on a de la jeunesse. C'est aussi quelque chose que les jeunes dont ils souffrent. Alors, effectivement, les jeunes qui sont suivis par la PJJ ont des étiquettes, comme on a pu en mettre par le passé, de délinquants, de jeunes issus de l'immigration, avec des stéréotypes de jeunes à capuche ou à casquette. Donc, c'est aussi cette... la jeunesse, elle est perçue et elle est surtout retranscrite dans les médias comme une jeunesse qui ne s'intéresse à rien, ignare, fainéante, etc., etc., voire dangereuse. Et du coup, c'est aussi ce qu'ils peuvent nous renvoyer parfois à nous adultes en disant que certains adultes sont moins citoyens. Alors, ils ne le disent pas dans ces termes-là, mais en tout cas, il y a aussi cette question-là de faire société, de vivre ensemble, qui doit aussi être prise à bras-le-corps par les adultes pour que, justement, les jeunes ils se sentent appartenir à une société intergénérationnelle.
Nous, nous rappelons souvent que les premiers à aller à Londres, en juin 40, ce sont des jeunes gens, ce sont des lycéens. Des lycéens. Les premiers résistants en France, ce sont aussi des lycéens. Non, la jeunesse, évidemment, et on croit en elle parce que voilà, elle porte aussi le monde de demain. Et on a beaucoup à apprendre d'elle. Enfin, voilà, au CERCIL, le travail que l'on fait, il n'est pas qu'avec les jeunes. Je l'ai dit la semaine dernière, on travaille avec les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les parents, les grands-parents. Nous sommes une communauté. Tous. Donc on ne saucissonne pas en fonction de l'âge. Et vous avez dit tout à l'heure, très justement, on parle beaucoup dans la famille. C'est important d'échanger, de parler, d'avoir des lieux. Alors on a la famille, il y a d'autres lieux pour cela quand la famille, on ne peut pas le faire. Et c'est ce que l'on essaie de faire au CERCIL, c'est-à-dire créer des lieux où on peut échanger avec ses parents, ses grands-parents, des oncles et des tantes. Et ça, c'est important pour aborder des problèmes difficiles, complexes.
Merci à tous. Notre émission se termine et vous allez retrouver la programmation habituelle de Radio Campus dans quelques minutes. Je remercie donc tous les invités qui ont répondu présent à notre invitation du Bondy Bloc Centre Café. Donc avec deux émissions, vous avez écouté la précédente la semaine dernière, enregistrée depuis le CERCIL dans la bibliothèque. Avec donc il y avait Hervé Debecker, professeur au lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers, avec deux élèves Maëlle Carbonnier et Pauline Martin, ainsi que Émile Bruny, ancien élève au lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers, actuellement en licence d'espagnol, Christelle Lamour, référente laïcité et citoyenneté à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, deux photographes, Christian Gattinoni et Nancy Johans, et Nathalie Grenon, directrice du CERCIL. Plus d'informations sur la très riche actualité du CERCIL en allant sur le site du CERCIL. Voilà, il y a souvent plein de choses. Il faut aller voir, il y a un petit dépliant avec tout ce que vous pouvez faire. Il y a même de la musique, des spectacles, évidemment le musée, et puis des conférences, des espaces de parole. Le CERCIL, c'est plein de choses. Plus d'infos, évidemment, sur le site qui lui est dédié à l'adresse www.cercil.fr. Merci à tous.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Bloc Centre.
Bondy Bloc Café.